pris. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde le rabataire qui écrive nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser.
Bonsoir, il est 20h02 sur les antennes de Radio Campus 106.6. Comme chaque premier vendredi de chaque mois, vous allez retrouver au cours de cette émission le collectif La Brèche. Collectif La Brèche qui regroupe des individus et individus, eux, qui travaillent autour de la prison et qui souhaitent tout simplement abolir cette chose, car rester enfermé derrière des barreaux, c'est vraiment pas humain. Donc vous allez retrouver tout de suite le collectif La Brèche sur Radio Campus 106.6 au cours de l'émission La Voix sans maître.
C'est Jean Fagot, on me surnomme, je suis un ancien. Oui, j'ai vu tomber plus d'un homme qui était mort. Maintenant que je sens que je calanche, je veux vous conter ce que j'ai vu, fixe sur la planche, je suis transporté.
Maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, le 7 janvier, suicide d'un homme de 25 ans.
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le 16 janvier, suicide d'un homme de 34 ans.
Maison d'arrêt de Saint-Brieuc, 25 janvier, suicide d'un homme de 27 ans.
Maison d'arrêt de Bordeaux-Draguignan, 3 janvier, suicide d'un homme de 60 ans.
Maison d'arrêt Saint-Paul de Lyon, 26 avril, décès d'un mineur de 17 ans.
Maison d'arrêt de Saint-Paul et Lyon, le 19 février, suicide d'un homme de 23 ans.
Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, suicide d'un homme de 42 ans, le 19 février.
Maison d'arrêt de Bonneville, 25 mars, suicide d'un homme de 21 ans.
Maison d'arrêt de Tarbes, 25 avril, mort suspecte d'un jeune homme de 19 ans.
Centre pénitentiaire Varennes-le-Grand, 7 mai, suicide d'un homme de 41 ans en quartier d'isolement.
Maison d'arrêt de Colmar, le 3 mai, suicide d'un homme de 58 ans.
Prison de Saint-Paul-de-Lyon, le 26 avril, décès d'un mineur de 16 ans.
Maison d'arrêt de Saint-Paul-de-Lyon, 23 mai, décès d'un homme de 36 ans.
2 juin, maison d'arrêt du Val-de-Reuil, suicide d'un jeune homme.
Maison d'arrêt de Rouen, 8 mai, mort d'un détenu de 51 ans après tentative de suicide.
Centre pénitentiaire Marseille, Baumette, le 21 février, suicide d'un homme.
Maison d'arrêt de Losses-les-Lille, le 25 mai, décès d'un jeune homme de 23 ans.
Ok, donc cette émission, vous l'aurez compris, c'est a priori sur le suicide. On va essayer de débroussailler un peu ce que ça veut dire, parce qu'il est d'usage, lorsqu'on critique le système carcéral, de relever le taux élevé de suicide en prison, comme pour signifier l'extrême ignominie qu'elle représente. Mais comme souvent, la négativité de ces deux mots, suicide, prison, bon, c'est assez négatif comme mot quand même, ça sert à l'association des idées au détriment du concept même de suicide. Et on ne voudrait pas, au nom de la lutte anticarcérale et du progressisme, faire le jeu de la morale, celle des curés d'hier et d'aujourd'hui, qu'ils soient cathos, musulmans, marxistes ou anarchistes, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas le suicide et qui ont des positions morales dessus. Or, il existe, au risque de déplaire à certains et certaines, un aspect positif et libérateur du suicide, notamment en prison. Alors, selon la définition du dictionnaire, se suicider, c'est le simple fait de se donner la mort. Or, se donner la mort, c'est parfois aussi reprendre de manière ultime sa vie en main et se réapproprier radicalement son corps, tous deux confisqués par la maladie, l'aliénation de pouvoir à un certain moment de sa vie. Ainsi, de nombreuses personnes ont délibérément, au cours de l'histoire, mis fin à leur jour. Alors, on peut citer Alexandre Jacob, Ayakovsky, Debord, Lafargue, Giosaxa, etc., pour s'en tenir aux figures du XXe siècle. Mais il y a également des milliers d'anonymes, et parmi eux, de nombreux tolards et de nombreuses tolardes. Alors, les concernant, il serait, je pense, insultant de dire que c'est la prison qui les a tués. Elle y est pour quelque chose, c'est indéniable, vu qu'elle les a privés de toutes ses perspectives d'espoir à un moment donné, mais pas plus que le reste de la société. En l'occurrence, le seul responsable de l'acte dans sa décision et son exécution, ça reste quand même l'individu lui-même. Et donc, on voulait faire la différence avec le reste de ce qu'on appelle suicide. Ici, c'est le seul que nous voudrions voir rester en tant que réappropriation positive de sa vie. Mais pour autant, toutes les personnes qui suicident, elles l'ont pas forcément délibérément choisi. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains prisonniers et prisonnières qui auraient au dehors eu le même genre de comportement et le même genre de cheminement intellectuel par rapport au droit au suicide refusent de se donner la mort à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Et ici, c'est plus pour dénoncer le caractère suicidogène de l'enfermement et surtout l'instrumentalisation de cette tendance par l'administration, parce que c'est souvent bien utile, un suicide, pour faire disparaître des gens un peu trop brillants. On l'a vu encore dans notre première émission, on parlait de Ralph à la prison de Grasse. C'est un cas parlant. Alors, quand le pouvoir ou la société veut voir disparaître certains individus, ceux-là disent qu'ils vont résister et refusent de mourir. Et c'est un combat de tous les jours, car c'est clair que c'est pas du tout facile de rester vivant, étant enfermé. Entre les vexations quotidiennes, les angoisses, les frustrations sexuelles ou affectives, les brimades, les rixes, avec d'autres détenus, et tout ça combiné à une impossibilité de décharger physiquement le point d'incarcération, ça conduit à des actes d'automutilation et des comportements suicidaires. Très souvent, ces pratiques débouchent sur des morts que l'administration pénitentiaire se dépêche qualifier d'accidentelles. Mais des jeunes de 20 ans qui meurent carbonisés dans leurs cellules à quelques mois de leur incarcération, comme on l'a vu à la dernière émission à Lyon, des toxicomanes qui crèvent le poignet tailladé parce qu'on leur a refusé l'accès aux soins, ou une femme qui meurt pendue au barreau de la cellule demi-tard parce qu'elle a mal parlé à la matone. C'est généralement ce qu'on appelle sans honte le suicide en prison. Je crois qu'il y a un petit abus de vocabulaire, et cet abus en cache un autre, c'est le meurtre extatique. Car la prison d'aujourd'hui, comme celle d'hier et de demain, malgré toutes les améliorations qu'on pourrait lui apporter, elle tue. Et puis pour nous, c'est une raison suffisante pour la voir disparaître. Alors on objectera à cela que bien d'autres choses poussent au suicide et que nous n'y attachons pas d'importance. Bref, qu'on est un peu trop concentré et omnibulé par la lutte anticarcérale et qu'on n'est donc ni objectif ni objective. Or, il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure. Lorsqu'on attaque la prison, c'est parce qu'elle est une clé de voûte de cette société. Alors évidemment, nous voudrions voir disparaître les autres causes du suicide, la misère, le désœuvrement amoureux et tout ce qu'on nous rabâche être les fatalités. Nous, on ne croit pas aux fatalités. Le suicide négatif que nous dénonçons n'est qu'une raison de plus pour nous de voir disparaître la prison. Mais il nous renvoie évidemment à notre propre misère et rappelle que la prison sociale existe également, hors des murs. Alors ça ne légitime rien au maintien de la prison dans nos existences, bien au contraire. On nous dit, et on reprend l'expression malgré nous, que la prison est suicidogène. Or, je demande aux auditeurs, auditrices et puis à mes camarades comment est-ce qu'on appelle une personne ou un système qui pousse au suicide ou qui conduit des individus à attenter à leur vie ou à leur intégrité physique. On ne suicide pas l'autre, c'est faux, on le tue, c'est simple. Et la confusion des mots, elle sert très souvent le pouvoir, notamment lorsqu'elle doit rendre des comptes et puis lorsqu'elle rencontre la population. Parce que, malgré ce qu'on peut croire, les directeurs de prison, tout ça, ils font des conférences, ils voient des gens. Et on a eu l'occasion, vendredi il y a 15 jours, à la mairie de Fâche-Thumesnil, d'assister à un atelier qui s'appelait « Risque et prévention du comportement suicidaire en prison », réunion organisée par l'association Oxygène. Alors étaient présentes des travailleurs sociaux, un psychiatre, évidemment, parce que dès qu'on parle de suicide, il faut ramener un psychiatre. Des membres d'associations d'aide aux prisonniers et prisonnières et à leurs familles, grâce à qui on a eu les quelques propos sensés de la réunion. Et puis notre gentil directeur de la prison de Losles-Lille, qu'on apprend à connaître. Et puis je crois que lui va aussi apprendre à nous connaître, monsieur Bruno Clément. Ça a commencé en fait par l'intervention du psychiatre, qui a expliqué pas mal de choses. Et qu'on va retrouver juste après une pause musicale. Je pense qu'on va s'écouter Assassin en live avec Kick ta merde. Et puis tout de suite après, on enchaîne avec ce psychiatre.
Et puis on va juste rappeler le numéro de téléphone de l'émission. Donc c'est le 03 20 91 24 00. Donc si vous avez un petit mot à dire, une réaction, une intervention, n'hésitez pas, l'émission est faite pour ça.
Vas-y, on y va. Ça y est, les fréquences de ma voix vacillent dans l'atmosphère. Ma seule patrie et mon poids, c'est qu'il part en guerre. L'eau est l'attitude de ce nouveau chapitre. Le putain d'artiste, poids politique et la réalité mythique.
attention, il le fait au médiatique, il est parti politique. La réponse est une putain de production. La censure est présente quand dans la formation circule. Le procès assassin fait partie des gens que personne ne manipule. Au fur et à mesure, j'avance pour mon futur, mais jamais ne vends mon cul pour gagner de l'allure. Et si malheureusement tu es jaloux de ça, tu deviens un arriviste dans le domaine dans lequel depuis des années je me bats. Mais pourquoi m'attarder sur ta personne? Le hip-hop a son histoire et cette s'y connaît l'ancienne école. Donc on prend nous pour une audience qui perd patience. L'escalade de votre société est une chanson sur laquelle les jeunes pensent. Alors pourquoi vous voir s'attarder sur son sort? Cherchons plutôt à savoir tout ce que l'on ignore. Tu vois, je ne fais que kicker ma merde.
Ça c'est à l'ancienne. L'Olympia, moi j'ai deux questions à vous poser, moi. Qui a fait les lois? Et qui défend nos droits? La justice! La justice! La justice! La justice! Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue! Ouais. À l'ancienne! Tiens, tiens! Tu as déjà vu, tu en as la certitude. L'exactitude de mes études me donne cette putain d'attitude. Natif du 18ème, garde avec mon poème. Donc s'il te plaît, l'enfer. Car j'ai été trop de fois trompé par des personnes de confiance. J'ai été trop de fois trompé par l'ignorance de l'enfance. Ma nation part en couille, il est temps de réagir. Mon esprit est positif, qui vient me contredire. Je n'écris pas quand j'expire, mais mon style flotte. Cool, complote, y'a assassin et moi ma cour d'époque. Et écoute la façon dont je glisse. Ce n'est qu'un aperçu dans les années 90. Non, je ne pleure pas sur mon sort, car mon sort est en accord. Avec mon esprit et mon corps, on est d'accord. Alors, je brise les stéréotypes. Et pousse ma créativité dans le domaine de la musique. Où je suis un poète même plus que la fontaine l'a été. Je m'adresse à la meute de plus civilisée, mais reste au cool. Et ne perdons pas l'affaire. La puissance vient du nord et blanc et la couleur du frère. Exact, sort un parc, marque la terre. Le spectacle débarque pour ta famille et ta folie. Qui conteste, qui proteste, qui que tu sois, tu suis sur cette pièce.
Toujours sur la Voix 100 mètres, animé aujourd'hui par le collectif La Brèche, comme tous les premiers vendredis du mois. Donc, comme on parlait tout à l'heure, sur les intervenants qu'il y avait lors de ce débat, on avait donc le psychiatre qui s'appelle Monsieur Évry Archer, président de l'association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, ASPNP, voilà. Et donc on va vous passer ce qu'il a dit. Ça, je crois que ça parle de soi-même, de lui-même. Et que c'est très explicite et que du coup, on fera un petit. On va vous balancer.
On pourrait peut-être dire, tout simplement, excusez-moi, que l'incarcération en elle-même constitue un facteur de risque pour beaucoup de gens. Parce que l'incarcération ne fait pas partie de la nature humaine. Il y a eu beaucoup d'études, notamment éthologiques, à propos des animaux. Et on voit clairement, même à la télévision, que des girafes. Procèdent à des conduites d'automutilation des singes et d'autres espèces animales. Donc ne parlons pas de l'homme, puisque beaucoup d'entre nous ne supportent déjà pas l'idée de l'incarcération, quelles qu'en soient les conditions. Il y a des gens qui se suicident tout en étant en résidence surveillée de luxe. Je ne parle pas des conditions de détention, que ce soit chez nous, à la maison d'arrêt de Los ou ailleurs. Donc déjà, la détention en elle-même constitue un facteur de risque majeur. Ne parlons pas aussi des filtres de recrutement. Il ne faut quand même pas oublier que la dépénalisation, les experts, dans leur grande majorité, depuis quelques années, se prononcent pour une responsabilité au pénal. Malade ou pas malade, trouble grave ou pas de la personnalité, chacun, selon une idéologie très particulière que nous connaissons depuis quelques années, chacun a droit à un procès pénal, à une condamnation. Donc on se retrouve avec des publics quand même qui sont extrêmement fragilisés et qui, dans beaucoup de cas, n'ont rien à envier à des publics que nous avions la tradition et l'habitude de retrouver dans des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie. Les gens qui se suicident aussi, pour aussi une grande partie d'entre eux, ont déjà eu des antécédents psychiatriques, voire même de suicide. Tout ceci pour balayer peut-être l'idée préconçue ou le préjugé qui consiste à dire que la prison est responsable du suicide. Je pense que, en ce qui me concerne, comme je ne fais là que partager l'idée de beaucoup de monde, que la prison n'est pas plus responsable du suicide que de l'augmentation du nombre de diabétiques ou de personnes à pathologie cardiovasculaire. Hein. Elle exagère, bien entendu, les traits, parce que lorsque vous avez des difficultés à dormir dehors, on peut supposer que vous allez en avoir beaucoup plus à l'intérieur de la prison.
Voilà, alors vous aurez remarqué avec quelle facilité M. Evry Archer, qu'on vient d'écouter, qui est donc, on le rappelle, psychiatre et président de l'Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, et qui est intervenu lors de l'atelier sur le risque et prévention du comportement suicidaire en prison qu'on a suivi. Avec quelle facilité donc M. Archer est passé d'un discours qu'on aurait pu qualifier d'abolitionniste de base sur les conséquences de l'enfermement sur l'homme et la femme comme animaux sensibles, à un discours dominant qui lui a intégré la critique de la prison comme creuset des inégalités, des misères de notre société, etc., en disant c'est normal qu'il ait suicidé parce qu'il y a des pauvres et des fous dans les tôles, et le suicide est le lot commun de ces deux communautés. Alors pour obtenir un raisonnement aussi erroné et puis direct, je crois qu'il ne faut pas être simple d'esprit, il suffit d'avoir fait 8 ans d'études après le bac et puis d'être psychiatre. Dès qu'on parle de suicide en prison, on a l'habitude de ramener la psychiatrie, et puis c'est bien facile de dire qu'une personne s'est juste suicidée ou a mis fin à ses jours parce que elle avait un problème psychiatrique grave ou ça déresponsabilise assez rapidement l'univers carcéral.
Ils aiment bien parler de psychiatrie parce que ça donne un poids scientifique à leurs arguments et ça, voilà, c'est ce qu'on sort à chaque fois, c'est la science.
Ah bon, on peut pas comprendre, hein, ça c'est sûr.
Voilà, c'est des mots techniques, nous on est trop cons et on n'y arrivera jamais, donc c'est bien beau, mais on n'y arrivera jamais.
Bah donc merci Monsieur Archer de nous avoir expliqué la vie et notamment la mort en prison. Quoi.
Et puis si je peux prendre rendez-vous avec vous, vous pouvez appeler l'émission parce que j'ai des petits problèmes. Voilà, je vais après ce monsieur, il y a donc ça, c'est un petit débat, hein, donc c'est parti un peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a un peu coupé arbitrairement les discussions, les interventions. Et autre grand personnage du moment, c'était donc le directeur de notre chère maison Belle et grande maison d'arrêt de Loos, Monsieur Clément, qui lui a parlé.
Lui, il est bien.
Lui, il est bien aussi. C'est pas le pire. Il était très calme à un moment, mais surtout très énervé. Enfin, un peu les deux, quoi. Et donc, lui, je vais résumer vite fait son discours, qui suit un peu, et même beaucoup, le discours de Monsieur Archer juste avant. Donc, sur trois points, je passe sur le premier point, c'est sur la confusion des termes entre le suicide et les comportements suicidaires. C'est-à-dire que, le thème du débat, c'était la prévention des comportements suicidaires en prison. Or, ce cher monsieur a carrément occulté ce fait en ne parlant que des suicides, donc des chiffres mathématiques et scientifiques de 1 mort plus 1 mort plus 1 mort égale 3 morts. Et donc a carrément retiré tout l'aspect antérieur du suicide, c'est-à-dire tous les suicides qui ne sont pas arrivés parce qu'ils ont échoué. Donc, parce que les tentatives a raté ou parce que quelqu'un est intervenu avant. Et donc, du coup, dans ces chiffres, c'est sûr qu'effectivement, il y a beaucoup moins de monde. Que quand on parle des suicidés, on va dire qu'il y a eu 3 suicides dans sa prison, mais que s'il commence à nous lister les tentatives de suicide, je crois qu'on peut très vite monter. Et en occultant justement les comportements suicidaires, il occulte les raisons du pourquoi on en arrive à des comportements suicidaires. Et justement, lorsque ça arrive, le suicide, pour lui, son explication est très rationnelle. C'est que c'est des simulations qui ont mal tourné. C'est-à-dire que c'est encore quelqu'un qui a fait des siennes, qui n'était pas content, qui a voulu emmerder son monde, parce que l'administration pénitentiaire, ils ont beaucoup de travail, donc ils peuvent pas s'occuper de tout le monde, et c'est encore des gens qui pour se plaindre sont automutilés, pour essayer d'avoir quelque chose. Et manque de bol, ça a mal tourné. Et c'est pas la faute de la prison, c'est pas la faute de l'administration pénitentiaire, c'est pas la faute de l'enfermement surtout. C'est la faute des gens. c'est la faute des détenus, c'est eux. Ils ont fait des conneries, ils sont arrivés en prison, et en plus, encore en prison, ils font d'autres conneries. Donc, bah, voilà. Et pour le troisième point, pour appliquer justement, pour affirmer et argumenter son explication sur le fait que la prison n'est pas du tout un facteur d'augmentation du taux de suicide, il nous a pris l'exemple des prisons anglaises, où il nous parlait des cas de certaines prisons où elles étaient encore plus petites que celles à Los, plus insalubres, qu'on était encore à l'époque de la tinette, donc c'est-à-dire le seau dans lequel on fait nos besoins et puis qui est ramassé le matin, et que dans ces prisons-là, le taux de suicide il n'est pas plus fort qu'en France. Donc ça n'a rien à voir, les conditions de détention effectivement ne jouent pas. C'est pas parce qu'elles sont mieux qu'on a la télé ou la PlayStation qu'on se suicidera moins, mais en tout cas pour lui, ça occulte beaucoup de choses. Donc on va vous passer sur un suicide qui est arrivé récemment, c'est-à-dire le 23 mai, donc un suicide d'un jeune homme, et lors de cette
à Los,
donc justement chez lui, on a voulu l'interviewer à la fin du débat pour avoir un peu ce qu'il pensait, et on va vous passer ça.
Sa super réponse,
et puis la
merci
suite.
Merci Monsieur Clément.
L'accident de la semaine dernière, le suicide de la semaine dernière.
Ah non, je m'exprimerai pas là-dessus, vous êtes sûr?
Oui, certain.
Et sur le traitement de l'information par rapport à ça, pourquoi vous refusez de répondre?
Parce qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, donc je ne peux pas m'exprimer. Je peux simplement confirmer qu'il y a eu un suicide, dire qu'il a eu lieu au quartier disciplinaire, c'est tout.
D'accord, au niveau de la gestion de l'information dans la prison, ça se passe comment?
C'est-à-dire
comment c'est répercuté? Est-ce qu'il y a une information des prisonniers qui est faite par rapport au suicide, ou est-ce qu'ils l'apprennent par voie de presse?
Ils le savent, puisque généralement on va voir les co-détenus ou les gens qui étaient en cellule avec la personne. Donc ça fait le tour rapidement, quoi. Et puis on le dit par les familles. Comment voulez-vous que ce soit accueilli? C'est toujours très mal accueilli. Bien sûr. Heureusement d'ailleurs que c'est mal accueilli, parce que c'est révoltant de se donner la mort en prison quand on a 23 ans. Bon, c'est toujours un traumatisme. C'est un traumatisme pour les détenus, c'est un traumatisme pour les personnels. Donc bien sûr on fait une information. Ouais. Moi ce que je fais en règle générale dans ces cas-là, c'est que je vais à l'étage dans lequel se trouvait le détenu, et je vais dans les cellules un peu partout, et je donne pas de détails très précis, mais je dis ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut dire les choses.
C'est pour le cas de Los, ou vous parlez pour le cas général des prisons?
Parce qu'il y a... Moi je parle de ma pratique, ce que font mes confrères. Mais moi je pense qu'il faut donner, il faut expliquer, et d'ailleurs il faut surtout expliquer à la famille. Parce que bon, les détenus, eux, ils savent toujours ce qui se passe. Mais la famille, elle, quand elle vient juste au parloir, elle connaît pas, elle est dans un milieu qui lui paraît totalement étranger, hostile. En plus, elle n'a des échos que par la bouche du détenu, qui lui vit forcément les choses de manière très négative et parfois pas toujours objective. Donc il est très important qu'on reçoive les familles pour leur expliquer de manière très, très détaillée, sans tomber dans le sordide, mais de manière très détaillée pour expliquer ce qui s'est passé.
Voilà, alors Bruno Clément, superstar, le directeur de l'atoll de Los. Alors pendant le débat, il nous a dit que l'imagination humaine n'avait pas de limite lorsqu'il s'agit de mettre fin à ses jours. Nous, on trouve que c'est son cynisme qui n'a pas de limite quand même, parce que bon, il est fort.
Puis, ouais, bon, de toute façon, c'est un directeur, comme on l'a vu, vachement progressiste, et je crois que c'est un petit peu comme ça l'image qu'il doit avoir également de lui-même. En fait, il a été complètement incapable de s'exprimer réellement sur ce suicide à Los Les Lilles. Et de toute façon, ceci est un petit peu révélateur du rôle qu'il a lui-même. Il est directeur de prison. Son rôle, c'est d'enfermer des gens. Quand il y a conflit entre deux personnes, ou quand il y a conflit entre une personne et la société, lui fait partie d'une institution qui va donc s'interposer là-dedans. C'est la même chose quand il y a un suicide. Il est incapable de faire quoi que ce soit, le pauvre. Il a renoncé à toute autonomie et quoi que ce soit. Et donc, quand il y a un suicide, pour l'expliquer, il laisse le soin à la police, aux inspecteurs, etc., qui vont enquêter là-dessus, de la même façon qu'on lui a remis le rôle de s'interposer dans les conflits qui peuvent exister entre les gens.
Et puis, surtout, ce qui est marrant, c'est que, on a voulu l'interviewer par rapport à ce cas de suicide, et qu'il nous a répondu par la négative. Or, Bah, il en a parlé lors du débat. C'est pour ça que l'émission, j'espère qu'il l'écoute, comme ça il se rappellera un peu de tout.
Il y a des gens qui font aussi des simulations et qui malheureusement réussissent leur coup. Genre, le dernier suicide de la maison d'arrêt qui est intervenu il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 15 jours, on l'a décortiqué avec le médecin psychiatre, on l'a décortiqué avec tous les gens qui connaissaient ce jeune homme qui a mis fin à ses jours. Et la conclusion à laquelle on arrive tous, quelle que soit notre place, c'est que c'est au départ une simulation qui a mal tourné.
Voilà, alors ce n'était pas un suicide, mais juste une simulation. Alors c'est facile, on dit que c'est un chantage pour les bénéficier de telle ou telle chose auprès de l'AP ou des travailleurs sociaux. Et puis alors là, lorsqu'il dit ça, il y a tous les travailleurs sociaux qui se réjouissent et qui acquiescent, parce qu'évidemment on prend en compte la dure réalité de leur travail. Et puis donc tout le monde est content. Et aussi, il nous a fait quand même une petite touche sympathique, parce que pour venir nous parler de la souffrance des matons, hein, qui découvrent un tolard mort dans sa cellule lors d'une réunion autour du suicide, ça fait toujours bien. Et je crois que ça fait totalement obscène surtout, et puis que ça vise à minimiser la situation épouvantable des prisons. Alors voilà, il est bien, le directeur.
Je crois qu'il doit être directeur du cynisme en France. Voilà. Donc, par rapport à toutes les positions qui ont été prises lors de ce débat, que ce soit le psychiatre, le directeur, puis plus tard une assistante sociale du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'OS, vous allez le savoir, enfin vous l'entendrez tout à l'heure, est assez.
Elle est bien aussi.
Elle est bien aussi, voilà. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Que ça n'a rien à voir, que l'enfermement du tout n'a aucun rapport, que ça joue en aucun cas, que l'enfermement c'est normal, que c'est bien, et que si les gens se suicident, de toute façon ils l'auraient fait à l'extérieur, et que simplement ils l'ont fait là, et qu'il n'y a pas de quoi en faire un drame, et puis voilà quoi.
Ça les embête quand même un peu, parce que bon, c'est jamais agréable. Hein. Et
ça donne une mauvaise image, mais...
Puis il faut un soutien psychologique après des matons, parce qu'évidemment, ils veulent plus travailler, ils sont choqués, tout ça.
Mais en aucun cas, ça va expliquer le fait que le taux de suicide soit beaucoup plus élevé dedans que dehors, évidemment. C'est une pure coïncidence.
Oh, c'est des chiffres, c'est des chiffres, évidemment.
Ils ont pas mal joué sur les chiffres, d'ailleurs, lors de ce débat, où c'était 10, 15, 2, 3, chacun avait son truc, et c'était un concours de chiffres. Et c'était assez... pathétique même.
On joue sur les chiffres pour cacher des réalités, et puis on joue sur les mots également quoi. C'est toujours facile de jouer sur suicide, comportement suicidaire, on élude la moitié des cas et voilà.
Donc voilà, pour nous c'est clair et net que la prison et son enfermement sont directement liés sont directement facteurs du suicide, de l'augmentation du taux de suicide dans le monde. Et qu'en aucun cas, améliorer les conditions, avoir des pensées, des actions plus humanistes et plus humaines, en se disant que peut-être si on leur mettait une cellule par personne, avec un beau lit, un beau drap et une PlayStation, ça le ferait mieux, qu'ils iraient mieux. Peut-être qu'effectivement, pour ceux qui sont dedans, c'est clair, on est d'accord, ça améliore, mais qu'au final, ça ne changera rien. L'enfermement reste l'enfermement et la peine de mort existe encore. Donc voilà, je crois que c'était, je sais pas trop ce qu'on peut dire.
Ouais, ce qu'on peut dire également, c'est que dans les statistiques, évidemment, ça rentre pas les vies qui sont foutues en l'air, parce que on peut toujours calculer les suicides qui sont en prison, et puis avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire qu'on prend pas en compte les comportements suicidaires, on prend pas en compte plein de choses, mais on prend pas en compte non plus les gens qui sortent, parce que quand on sort avec la prison dans sa tête, et puis les vies foutues, les gens qui se foutent en l'air parce que leur compagne ou leur compagnon sont en tôle, tout genre de choses, c'est également éludé, et puis la prison, c'est pas juste quatre murs, on n'arrêtera pas de le répéter, ça s'étend à bien, bien plus que ça. Et puis encore une fois, pour conclure, sur le thème du suicide qui nous préoccupait aujourd'hui, c'est dire que la prison, elle est suicidogène au sens qu'elle tue, et puis voilà, c'est tout simple.
Donc là, on va enchaîner par un petit exemple de solidarité chez les détenus. Donc c'est un communiqué de Poissy que Philippe va lire.
C'est un communiqué qui a été publié le 2 avril 2000. Donc je vais vous le lire. Poissy, le 9 avril 2000. Monsieur le directeur, notre courrier qui a dénoncé les conditions de suicide de deux de nos compagnons est resté sans suite. Vous n'avez pas parlé aux détenus pour les rassurer sur leur détention dans votre établissement. Nous avions hélas raison de ne pas nous illusionner sur votre attitude à l'égard de la population pénale. Nous espérons pourtant que cette lettre rencontrera plus d'humanité de votre part. Nous reprenons contact avec vous pour dire cette fois notre sentiment d'indignation et de honte à propos d'un détenu qui vient passer 29 ans dans les prisons françaises. Monsieur Serge Lebon, il est depuis quelques années, dans votre établissement pour une peine qui aurait dû prendre fin il y a déjà 10 à 15 ans, puisqu'étant condamné à perpétuité pour un crime qu'il a largement payé. Mais la perpétuité, comme vous le savez, ne signifie pas mourir dans les murs d'une prison. La prison, ayant contribué à déclencher et aggraver sa maladie mentale, il est trop facile maintenant de faire le constat de la conséquence d'une politique carcérale et d'invoquer votre impuissance à le libérer. Un homme ne se réduit pas à de la chair humaine. Chaque matin, en le voyant dans la cour, dans sa tour d'ivoire personnelle, nous avons honte pour cette administration que vous représentez dans l'établissement. Il est aussi difficile, dans son cas, dans des propos administratifs, de regretter la longueur des peines. L'enjeu, dans ce cas, n'est pas celui d'un dossier à gérer, mais de la fin de vous désolidariser du caractère inhumain d'une langue de bois des juges qui se débarrassent de détenus dans les prisons pour que de très très longues peines, sans se donner les moyens d'en évaluer les effets. Au-delà des mots, et plus sérieusement, le cas de M. Lebon fait franchement honte à ce qui nous reste d'humanité dans notre société. Vous comprenez donc que vos déclarations faites aux médias à propos d'une supposée réinsertion sociale problématique n'est qu'une patate chaude que vous repassez à des fonctionnaires éloignés du terrain et donc objectivement irresponsables. Vous devriez, sans coup faire rire, commencer par résoudre la situation de ce détenu. Cela prouverait à minima que les mots de notre justice ne sont pas vidés de leur contenu. Car 29 ans est simplement un nombre indécent, que ni démocratie que la France. Il s'agit dans ce cas d'une mise à mort maquillée de bonne conscience et donc particulièrement lâche. Pourriez-vous nous donner la preuve que vous faites qui est nécessaire pour mettre à la fin, pour mettre fin à la mascarade inhumaine qui garde encore ce prisonnier dans vos gueules, car cet homme risque, comme vous le savez clairement, d'être retrouvé suicidé, lui aussi, un beau matin. C'est une simple affaire de prévention, donc, pour laquelle nous n'en doutons pas, vous travaillez. Dans l'espoir que vous entendez cette nouvelle appel à raison humaine, nous vous prions d'accepter nos salutations encore teintées d'espoir. Groupe des détenus, au directeur de la maison centrale de Poissy, le 2 avril 2000.
Ouais, bah nous, je crois que l'espoir, on l'a un peu perdu. Et donc, voilà, vous êtes toujours sur l'émission de la voix sans maître dans la chronique prison animée par le collectif La Brèche. Numéro de téléphone, c'est le 03 20 91 24 00. Donc, appelez-nous si vous le voulez.
Ou si vous voulez passer un bonjour l'intérieur, c'est également possible.
C'est le moyen de passer par-dessus les murs le plus simplement possible. Et donc voilà, donc on va vous passer un petit bout de musique pour souffler et puis on vous reprend après sur notre assistante sociale préférée.
Et hop, son soir, grand-mère et sa poitrine, grand-mère et ses usines et ses vins secrétaires, son soir, mère grand, diriger ses affaires, elle vend des courants d'air. Déguisé en coup de vent, faut voir grand-mère quand elle compte son magot. Ça fait des tas de zéro pointé comme son derrière. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bande en lui disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos petits épargnants aient le sens des valeurs. Faut voir grand-mère, c'est une tramontane qui fume le Havane et fait trembler la terre. Faut voir grand-mère, cerclée de généraux, être culotte de peau et gagner leur guéguerre. Faut voir grand-mère,
dressé sous son chapeau. C'est Waterloo, vous serez pas venu Blücher. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que l'armée elle bat le beurre. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos braves piou-piou aient le sens des valeurs. Faut voir grand-mère s'assurer sur la menthe, un petit coup de presbytère, un petit coup de remords. Faut voir mère grand et ses ligues de vertu, ses anciens combattants, ses anciens combattus. Faut voir grand-mère quand elle se croit pécheresse, un grand verre de grand-messe et un doigt de couvent. Mais pendant ce temps-là, grand-père court après la bonne en lui disant que les curés sont farceurs. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos petits incroyants aient le sens des valeurs. Mais il faut voir grand-père dans les bistrots bavards où claquent les billards et les chopes de bière. Faut voir père grand caresser les roseaux, effeuiller les étangs et pleurer du Rimbaud. Faut voir grand-père dimanche finissant, honteux et regrettant d'avoir trompé grand-mère. C'est pas bien. Pas bien du tout. Mais pendant ce temps-là, grand-mère se tape la bonne en lui disant que les hommes sont menteurs. Comment voulez-vous, bonnes gens, que nos bonnes bonnes et que nos belles jeunesses aient le sens des valeurs.
Wesh la brèche, tous les premiers vendredis du mois sur Radio Campus 106.6, émission contre les prisons et contre l'enfermement. Vous pouvez nous téléphoner aux 03 20 91 24 00. 00.
Donc Yann, ça va être ton tour. Donc tu vas nous présenter notre cher collègue du SPIP, service de probation, nana.
Moi je veux bien en parler maintenant, il n'y a pas de problème, mais je me demandais si on la laissait pas s'exprimer un petit peu avant.
On peut.
Bah alors on va la laisser parler un petit peu et puis...
On va juste la présenter vite fait, elle s'appelle Anne-Laure Dautry et donc on rappelle, elle fait partie du SPIP.
Donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qu'on vous présentera un petit peu après parce que bon il n'y a pas forcément, les gens ne connaissent pas forcément peut-être tous les rouages qui se cachent derrière l'enfermement un petit peu plus généralisé, donc au-delà de la prison, soit quand on sort, soit quand on a fait des conneries qui méritent encore pas d'être enfermé entre quatre murs.
En tout cas, on vous rappelle, elle est intervenue dans un atelier sur les risques
et prévention du comportement suicidaire en prison.
Voilà.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un détenu qui va passer à l'acte toutes les 10 secondes, effectivement sur des histoires de manière de faire pression parce qu'il veut ci, parce qu'il veut ça, parce qu'il veut son parloir. L'exemple est très clair, merci Stéphanie. J'ai un archétype de ça. Moi, pour l'instant, il m'a fait... Allez, je compte même pas le nombre de tentatives de suicide. On va dire, c'est même pas de la tentative de suicide, c'est même pas de l'automutilation, c'est on va dire de la provocation. C'est manière d'avoir quelque chose parce qu'il pense qu'il aura quelque chose comme ça et qu'il obtiendra quelque chose comme ça. Seulement, manque de bol, il a l'effet inverse. Mais qu'est-ce qui me dit qu'à un moment donné, ce gars-là, il ne va pas passer à l'acte ?
On sait pas.
J'en sais rien. Jusqu'à présent, moi, je l'envoie balader parce que j'en ai marre, qu'il se ramène toutes les 10 secondes parce qu'il s'est frotté avec une corde sur le cou. Comme ça, pour me montrer la trace et me dire ça, ou alors qu'il s'est fait comme ça, ou qu'il a avalé des lames de rasoir en les enveloppant pendant 3 tonnes de sopalin. Qu'est-ce qui me dit qu'à un moment donné, celui-là, il ne va pas passer à l'acte ? J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai comme moyen pour évaluer ça ? J'en sais rien.
Sympa, les travailleurs sociaux. Alors, c'était vraiment une des meilleures intervenantes, parce que souvent, on a tendance à se dire que quand même, c'est le personnel pénitentiaire qui sont souvent les plus méchants, ou du moins qui ont l'image... un petit peu des les plus brutes, les plus brutaux par rapport aux détenus, donc ce serait peut-être bien de démystifier tout ça, ouais, d'autant plus que, enfin, si j'ai bien compris, à cette réunion, au niveau de l'audience, des gens qui sont venus, etc., c'était quand même composé en bonne partie de ces fameux travailleurs sociaux, donc qui sont, qui ont une image quand même vachement plus sympa que le maton qui matraque, etc., etc., etc. Donc, la représentante donc du service pénitentiaire d'insertion et de probation, elle s'est quand même particulièrement illustrée par ces propos vraiment détestables qu'on vient d'entendre. Bon, après, nous, on aurait pu, si on avait vraiment voulu s'amuser à la descendre, etc., on aurait pu vous en sortir encore des vertes et des pas mûres qu'elle a lancées. Elle s'est vraiment illustrée sur des réflexions qui révélaient en fait une véritable haine qu'elle peut ressentir envers les condamnés, etc., et un sadisme qu'elle a quand même eu beaucoup de mal à cacher. En tout cas, elle n'a pas réussi à le cacher du tout.
Bah, manque de bol, il y avait le micro sur la table juste à côté d'elle, donc on a un peu tout capté.
Ça n'a pas gêné, hein, de toute façon, je crois qu'elle assume complètement.
Ouais, je pense aussi.
Non, je crois qu'elle n'a aucun complexe par rapport à ça, et que, en tout cas, si vous avez affaire au SPIP, je vous envie pas si c'est elle qui vous convoque, parce que, à mon avis, elle va essayer de vous faire faire les choses les plus pénibles. En tout cas, donc, sous couvert de cette espèce de mission providentielle de réinsertion, il y a tous ces travailleurs sociaux qui relaient, en fait, dont leur rôle est de relayer les décisions des juges d'application des peines, qui eux aussi ont une mauvaise image. Mais par contre, donc, comme je le disais tout à l'heure, ces travailleurs sociaux, ils bénéficient, eux, d'une image plus positive que celle, par exemple, des gardiens, quoi. Donc on va présenter un petit peu mieux le SPIP pour mettre un petit peu fin à cette espèce de légende qui voudrait qu'en fait la vocation sociale du traitement des justiciables ait aucun rapport avec une fonction répressive, avec une fonction punitive et avec une fonction vraiment vindicative. Et bon, je crois que à nouveau, ces petites réflexions sont très 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 éloquentes. Alors, on va reprendre un petit peu les mots du ministère de la Justice en ce qui concerne la création du SPIP. Donc, ça a été créé suite à un décret du 13 avril 1999, il y a 3 ans, qui généralise petit à petit l'instauration du SPIP dans chaque département, donc au niveau, et pour finalement arriver à une section du SPIP dans quasiment tous les départements du territoire français. C'est un décret, en fait, qui réforme 2 anciens services qui étaient en charge de la réinsertion auparavant. Il y avait le comité de probation et d'assistance aux libérés qui intervenait à l'extérieur. Et il y avait le service socio-éducatif des établissements pénitentiaires qui, lui, intervenait donc à l'intérieur des prisons. Et d'un coup de baguette magique, on obtient le SPIP qui permet un meilleur suivi des condamnés qui, dans leur parcours pénal, peuvent être alternativement pris en charge en milieu ouvert et en milieu fermé. La dernière phrase que je viens de donner était une citation. Donc pour l'instant, il n'y a plus besoin de changer de service, c'est vachement plus pratique pour toutes les personnes qui transitent régulièrement entre l'enfermement en prison et le contrôle social renforcé à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est le lot commun d'un certain nombre de personnes, on est tous au courant, il n'y a pas besoin d'aller chercher les statistiques pour ça, pour savoir qu'une fois qu'on est en prison, on a aussi énormément de chances d'y retourner et que le reste de sa vie, ce soit donc une succession alternative de passage à l'intérieur des prisons et puis dans toutes les institutions à l'extérieur qui, de toute façon, conservent une restriction énorme de la liberté comparée à ceux qui n'ont jamais eu de démêlés avec la justice, on va dire. Donc la création du SPIP, elle répond notamment à l'apparition et également à l'empirement de certains phénomènes. Et ça, pareil, c'est le ministère de la Justice qui le cite, donc avec leurs jolis mots. Mais en fait, il révèle tout un tas de choses contre lesquelles nous, on a la rage depuis assez longtemps. Donc ils répondent à ces problèmes-là. L'aggravation de la situation économique et sociale des populations suivies. Bon, c'est une constatation. Du moins, ils le prennent comme une constatation. À notre avis, c'est plutôt une volonté. Après, peut-être un jour, on vous parlera des nouvelles lois, etc. Ça répond également à la diversification des mesures en milieu ouvert, particulièrement les travaux d'intérêt généraux, parce qu'on est aussi censé nous faire croire que l'apparition des... plutôt le développement, parce que ça existe depuis très longtemps, des travaux d'intérêt généraux, mais aussi d'autres mesures qui ne correspondent pas exactement à l'enfermement entre 4 murs, comme, je sais pas, le bracelet électronique, etc. C'est censé un petit peu dépeupler les prisons. Bon, c'est quelque chose qui est complètement faux, parce que le nombre de prisonniers est en constante augmentation, et également les gens qui sont condamnés à des peines alternatives à la prison et également sans arrêt en augmentation. Un des troisièmes phénomènes qui est aussi important à signaler, c'est l'augmentation de la population carcérale et donc le trop de travail que ça apportait aux défunts services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires, donc remplacés par le SPIP. Heureusement, donc, le SPIP arrive et il nous sauve de cette difficile situation, la situation vraiment difficile de l'appareil exécutif en coordonnant les divers services. Il y a, au sein du SPIP, il y a des réunions de groupes de travail pluridisciplinaires qui mêlent des magistrats, des travailleurs sociaux, des chefs d'établissement. En milieu ouvert, il y a une des nouveautés du SPIP par rapport à l'ancien service, c'est de travailler en lien avec l'administration pénitentiaire. En milieu fermé, par contre, ils sont voués à assurer une cohérence entre la prise en charge dedans et dehors. Et voilà, c'était en gros donc pour vous présenter le SPIP. Et enfin, ce décret, il organise d'une façon un petit peu plus efficace les relations entre les magistrats qui condamnent, les juges d'application des peines, donc ceux qui sont en charge de veiller à l'application de la peine, et donc les travailleurs sociaux qui eux vont faire appliquer la peine. Et donc, le SPIP favorise la circulation des informations concernant les proies de tous ces rapaces. Bon, quelques petites conclusions qu'on pourrait tirer, donc, c'est de la simple fusion en fait des services et ces différents services et l'augmentation des condamnations à des peines qui viennent se substituer à la prison. Il y a un lien entre l'incarcération et le contrôle social qui se rétrécit un petit peu. Les mesures de réclusion en fait extra-carcérale, comme par exemple le TIJ, c'est aussi une privation de liberté. Je veux dire, on fait un travail qui est strictement inutile. Et ça dure un certain temps et ça oblige donc une personne à ne plus disposer de sa liberté de mouvement.
Vous pouvez nous croire.
Vous pouvez nous croire. Donc elles sont toutes ces mesures de réclusion extracarcérale, elles sont renforcées donc sous l'égide du SPIP, sans évidemment, enfin comme je l'ai rappelé déjà une ou deux fois, sans qu'il y ait la moindre diminution de la population carcérale. Donc il y a les observations qu'on peut faire sur le mensonge de la réinsertion en milieu carcéral, elles sont également vraies sur le mensonge de la réinsertion en milieu à l'extérieur. Sinon, la création du SPIP, comme on l'a dit, elle vise à mieux adapter la machine répressive, notamment face à l'augmentation du nombre des prisonniers. Bon, pour ces travailleurs sociaux, il ne s'agit pas de réduire la population carcérale, mais bien plutôt de parfaire le contrôle social. Dehors, il se passe exactement la même chose. C'est pas la peine de regarder les chiffres ou les statistiques pour affirmer que les alternatives à la prison ne sont en aucun cas apparues pour diminuer le surpeuplement, mais bien pour remplacer, par exemple, les amendes ou les choses comme ça par du moins les délits qui étaient condamnés à des amendes avant par le législatif et qui sont maintenant remplacés par des choses un petit peu plus dures. Enfin, une dernière chose qu'on pourrait dire, c'est que le ton de cette travailleuse, comme elle s'appelle déjà, de Anne-Laure Dautry, ses réflexions bêtes et méchantes, ça corrobore vraiment une certitude que nous, on avait déjà, comme quoi la confusion volontaire à la confusion volontaire des termes de répression et de réinsertion. Voilà. En gros, on peut
décerner la palme. Hein,
ouais, je crois
qu'elle ouais, c'est bêtise, mais la bêtise. Quoi, ouais.
Elle a fait plus fort. Donc voilà, donc ça c'était lors de l'atelier risque et prévention du comportement suicidaire en prison auquel on a assisté. Et on remercie Benoît Trioen, le responsable, qui a accepté qu'on enregistre les débats aussi. Et, donc voilà, ça c'est.
Ainsi que les deux autres intervenants,
oui,
peut-être.
Nous ont apporté un peu d'air parce que c'était. Hardcore, on va dire, Caroline Sanguinette de Parcours de Femmes et Karine Boquet de Trait d'Union
On va essayer de défendre une position un peu plus nette et puis sur le suicide dans toute cette histoire.
Donc, on a vraiment eu beaucoup de boulot parce que franchement, il y a un peu tout le monde contre elle, quoi. Voilà, donc on va passer à la musica et sinon, vous êtes toujours sur Contra-la-Spectration, vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6, l'émission Les Voix sans Maître animée par La Brèche tous les premiers vendredis du mois.
Beaucoup de passion.
Et 03 20 91 24 00.
Dans le cœur d'un garçon. La, 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 la.
j'envisage un futur.
Voilà, vous êtes encore avec l'émission La Brèche, comme tous les premiers vendredis du mois de 20h à 21h sur le 106.6 Radio Campus. Alors on vous l'a dit, il suffit d'appeler le 03 20 91 24 00 pour passer des dédicaces en direct. Et puis je crois qu'on en a une. Donc, non ? Bon. On va, en attendant de la passer, après un petit souci technique, vous présenter les news. Tout à l'heure, on vous disait que le directeur de l'atoll de Los, il disait que l'imagination humaine n'avait pas de limite lorsqu'il s'agit de mettre fin à ses jours. Nous, on trouvait qu'il était bien cynique. Et puis nous, on préfère mettre l'imagination humaine plutôt pour se barrer de toll. Et puis, il y en a qui en ont pas mal, comme par exemple l'évasion qu'il y a eu pendant le match Brésil, je sais plus trop quoi, pendant la Coupe du Monde. Tous les matons étaient en train de regarder gentiment la télé. Et en fait, il y a 17 prisonniers qui ont pris la fuite avec l'aide de quelques complices. Ils sont barrés en bus. Alors, il y en a 4 malheureusement qui ont été rattrapés et un qui s'est pris une balle, je crois. Bon, en tout cas, on la souhaite longue et bien belle à tous les autres.
Voilà, donc on va couper un peu les news pour passer une auditrice à l'antenne qui voudrait intervenir par rapport... au suicide et ce qui s'est passé. Donc on va vous la passer. Donc voilà, bonjour madame.
Oui, bonjour.
Donc vous vouliez intervenir?
Bah, écoutez, moi je m'appelle Sophie, je suis quadragénaire et en fait je passe souvent derrière les établissements de l'os. Et bon, ce qui me frappe, c'est le taux de suicide chez les jeunes de 20-23 ans en prison. Et je me demande comment ils peuvent en arriver là. Donc est-ce qu'il y a cette personne derrière elle pour les aider à surmonter bon, ce qui leur arrive en prison? Enfin, moi personnellement, j'ai eu des gens de la famille qui ont des ouvriers qui ont travaillé chez eux. Et ils ont expliqué qu'un des jeunes qui travaillait chez eux donc en peinture s'est suicidé sans que personne dans la famille n'ait vu quoi. Donc moi ça m'interpelle beaucoup cette question du suicide en prison, que je me dis, bon, les personnes qui arrivent là, est-ce qu'il y a des gens vraiment pour les aider à se réinsérer dans la vie, ou est-ce qu'ils sont laissés comme ça à leur compte, et puis bon ben un jour ou l'autre ils sont pendus, ils sont ouverts les veines, et puis voilà, personne ne peut rien quoi.
Bah, je pense que... ça c'est sûr que c'est dur. Après, je pense que le problème il est juste, comme on disait tout à l'heure, dans le fait qu'on enferme les gens, et que on aura beau mettre comme des assistantes sociales comme celles qu'on vient de passer tout à l'heure, ou d'autres travailleurs sociaux, oui, effectivement, ils pourront essayer d'améliorer le quotidien de ces gens-là, mais réinsérer quoi quand on est quand on est enfermé entre quatre murs, on l'est pour toute la vie, et l'enfermement, il n'y a rien de plus difficile que destructeur que ça.
Enfin, 20 ans, c'est le début de la vie, donc être en prison à 20 ans, enfin, je sais pas.
Bah oui.
Bon, si on a tué évidemment sa mère, ou je comprends, ou un conjoint, ou.
Mais je pense que rien ne mérite l'enfermement.
Casser une voiture, voler, je comprends qu'il faut, comment dire, il faut une peine, mais que ces jeunes se retrouvent en prison, qu'ils se suicident parce que personne ne les écoute, moi c'est ce que je trouve très dur.
Moi je pense pas que ce soit parce que personne ne les écoute, enfin. Personne, parce que c'est effectivement.
Pas des gens comme vous, ça d'accord.
Effectivement, non, je parlais pas, j'avais pas la prétention de me mettre en avant, mais c'est clair que la privation de rapports humains, de rapports familiaux, ça n'aide pas, ça c'est sûr. Et c'est pas des gens, des travailleurs sociaux qui sont là, qui sont payés pour accomplir un boulot, qui vont vous aider à régler votre problème, vu que le problème, c'est l'enfermement. Ça reste toujours ça, on en revient toujours au même problème. C'est l'enfermement, c'est les quatre murs, c'est la privation totale de liberté. Et à partir de là, n'importe qui, quelle qu'elle soit, personne ne peut, moi, à mon avis, et j'en suis quasi persuadé, même persuadé, qu'une personne puisse aider, ne serait-ce que l'écoute ou... La prévention là-dessus, comme on l'a dit, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission dès le début, mais...
Je suis arrivée à la personne, en fait, la surveillante qui a dit qu'un jeune, il s'était... Donc, je suis arrivée à ce moment-là, je suis rentrée du travail, où le jeune, il s'était un petit peu cisaillé la gorge avec une corde en disant qu'il allait se suicider et tout ça. Je suis arrivée à ce moment-là.
Donc... Et ben voilà, ouais. cette personne-là, c'est l'exemple type des personnes que l'on rencontre en prison et avec qui il faudrait parler et qui sont chargées de nous aider. Donc quand on tient des discours pareils, alors qu'on a une personne qui appelle, on crie au secours, et qu'on l'envoie bouler parce que ça nous gonfle, je crois que voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. C'est pas ces gens-là qui vont changer les choses.
On peut préciser que ce qui amène aussi les jeunes en prison, c'est aussi surtout une misère sociale qui existe avant. Et qui amène ces jeunes-là, quoi. Une misère sociale, peut-être aussi un problème d'éducation par rapport aux parents, et surtout un manque de liberté qu'on ne donne pas dans cette société, quoi, tout simplement.
Donc voilà, je ne sais pas si on peut dire quelque chose de plus, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
Je vous remercie. Bon, ce qu'il y a simplement, c'est que la personne qui arrive en prison, c'est qu'elle a déjà un lourd passé derrière, donc... Elle doit à la fois assumer tous les coups qu'elle a subis, bon, les bêtises qu'elle a faites, quoi, faut dire ce qu'il y a, mais en plus les coups qu'elle a subis, et en plus arriver en prison, un autre environnement, et puis il faut encore supporter ça, et puis c'est ça qui fait que certains n'arrivent pas au bout, quoi.
Bah, ils choisissent la liberté, et la liberté quand on est enfermé, je crois que ça peut passer que par le suicide. C'est...
La cavale.
Ouais,
il faut quand même donner quelques touches d'espoir, il y a toujours moyen, et puis on va peut-être finir sur une touche positive par rapport à ça.
Oui, donc, c'est vrai aussi,
Ouais, donc voilà, comme l'émission touche à sa fin, on est un peu obligé de couper, d'arrêter là. On vous remercie beaucoup de votre intervention, ça nous fait plaisir. Ça prouve au moins que voilà, on est écouté, qu'il y a des gens qui s'intéressent au gros problème de la prison. Donc je vous remercie beaucoup, madame. Et puis j'espère que vous écouterez les prochaines émissions. Et puis si vous voulez intervenir, n'hésitez pas.
D'accord, merci à vous.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Pour finir, on va se quitter sur trois trucs. D'abord, la prochaine émission, c'est sur, elle sera consacrée à l'entrée en prison. Donc le prochain vendredi, ça sera le premier vendredi du mois de juillet, de 20h à 21h. On vous rappelle le numéro de téléphone 03 20 91 24 00. Et puis on se quitte sur une note positive, avec une petite brève quand même.
Ah ouais, parce que ouais, donc tu as donné tout à l'heure une brève qui faisait un petit peu sourire. Bah, moi j'en ai une autre qui fait aussi un petit peu sourire. C'est en Ouganda. Cette fois-ci, ils n'étaient pas 17, ils étaient 31 à se faire la belle. Ils étaient en travaux forcés à l'extérieur de la prison et surveillés par une petite dizaine de gardiens quand ceux-là ont vu passer un lapin. Et bah oui, un lapin, ils se sont dit super, on va se faire un civet. Ils lui ont couru après et les 31 prisonniers en ont profité pour s'évader. Après aussi, en deux mots, lundi, il y a eu aussi, cette fois-ci c'est en France, à Metz, il y a eu une tentative d'évasion par contre qui s'est vraiment très mal passée, avec donc une femme qui accouchait à l'hôpital, une femme détenue qui accouchait à l'hôpital et qui a essayé de s'enfuir avec des complices. Donc les complices ont réussi à la prendre et à prendre le gamin et à aller à l'étage au-dessus et à sauter à l'aide de tissus qui étaient liés entre eux pour faire une grosse corde, un petit peu comme ça se passe d'ailleurs dans les vraies prisons, sauf que là donc c'était à l'hôpital. Pour l'enfant, ils ont réussi à le descendre, seulement la femme, quand ça a été son tour, la corde a lâché, elle a fait une chute de 10 mètres, elle est grièvement blessée. Et voilà comment ça s'est passé. En gros, des évasions, de toute façon, il y en a toujours, et on essaye de les rapporter un petit peu de temps en temps, quoi.
Voilà, et puis on va peut-être finir là-dessus. Évadez-vous comme vous pouvez.
Et surtout,
gardez l'espoir.
Gardez l'espoir.
On garde pour vous.
Voilà, donc on va terminer là pour aujourd'hui. Donc on rappelle encore une fois, dernière fois l'émission, donc c'était l'émission, la chronique prison de l'émission Les Voix Sans Maître, animée par le collectif La Brèche, donc vous pouvez nous retrouver tous les premiers vendredis du mois. Le prochain, encore une fois, c'est au mois de juillet, mais j'ai pas la date.
Le 7 ou le 5.
Voilà, on verra. Donc on espère vous avoir comme auditeur et auditrice. Et puis on va finir par un petit morceau. On vous dit au revoir et puis surtout, n'allez pas voter.
C'est là-bas, on a Buena Emission.
Dans quelques instants, vous allez retrouver toute l'équipe de l'émission Le Voyage. Juste bonne soirée.
Sa mère.
Bon, on a pas mal mordu.
Bon, c'est bon. Là.
Jamais un maton s'est permis de mettre une gifle.
Amateur. Des psychologues. Amateur.